Mon texte ce matin est tiré de 1 Corinthiens chapitre 13, ou 14 plutôt. 1 Corinthiens 13, c'est le grand chapitre sur l'amour. En 1972, Dorothy et moi, nous sommes venus à Cour-Saint-Étienne au mois de septembre pour être le pasteur ici. Il y a 43 ans et demi. Et à un moment donné, après quelques mois de ministère, je me suis dit, l'Église a besoin d'enseignements sur l'amour. Alors, j'ai préparé une petite série de messages sur l'amour. J'ai commencé l'amour de Dieu envers nous, notre amour pour Dieu, et puis l'amour pour le prochain. Et dimanche après dimanche, j'ai prêché sur l'amour pendant 3 mois. Après 2 mois, je me suis dit, peut-être les fidèles vont se dire ce matin, ah, sur quoi est-ce qu'il va penser parler ce matin? Mais j'ai tapé sur le clou parce que c'est capital. Et comme Mathieu a dit tout à l'heure, c'est bon de faire des révisions des choses qu'on a entendues. Pour ceux qui étaient là, peut-être ça vous donne des souvenirs. Justement, ça me fait grand plaisir ce matin que certains sont ici qui étaient là justement pour cette série il y a 43 ans. Hein, il y a Violette dans le fond et Anne et Cécile, qui étaient évidemment petites à cette époque. Maurice et Carmen ici qui sont arrivés dans l'église en même temps que nous. Paul et Lydie, Henri et Yvette, et Jaco et Marie-Luce aussi, qui sont venus 2-3 années plus tard. Et oui, et vous êtes encore là, dans la même église après 40 et des années. Vous avez appris à vous aimer les uns les autres, manifestement. Et vous êtes toujours avec le même conjoint. C'est encore un témoignage à la bonté de l'amour de Dieu. Eh bien, 1 Corinthiens chapitre 13 termine avec le dernier verset, vous connaissez très bien. Après, ces trois choses demeurent, verset 13, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande, c'est l'amour. Et mon texte de ce matin, c'est le verset juste après, verset 1 du chapitre 14. Recherchez l'amour. Recherchez l'amour. J'aimerais que vous reteniez ça. Recherchez l'amour. De quel amour s'agit-il? Eh bien, nous allons lire les 7 premiers versets du chapitre 13. Quand je parlerai des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute connaissance, quand j'aurai même toute foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est serviable. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne médite pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne succombe jamais. Poursuivez l'amour, recherchez l'amour. J'ai 3 choses que j'aimerais dire ce matin, 3 points principaux, après quoi je vais terminer avec 3 applications, 3 contextes différents où il faut apprendre à aimer. Ma Bible glisse sur ce podium, ça me dérange, mais enfin, tant pis. Premièrement, Nous sommes créés par amour pour aimer Dieu. Deuxièmement, nous sommes rachetés par amour pour aimer le Fils. Troisièmement, nous sommes régénérés par amour pour vivre dans l'amour du Saint-Esprit. Premièrement donc, nous sommes créés par amour pour aimer Dieu. Nous ne sommes pas là par hasard. Nous ne sommes pas le produit fortuit d'une explosion il y a 13 milliards d'années, sans plus. Nous sommes créés par un Dieu d'amour. Jésus dit en Jean 17, parlant à son Père, « Tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Les scientifiques nous disent aujourd'hui que la fondation du monde a eu lieu 13,4 milliards d'années d'ici. L'éternité est longue, n'est-ce pas? Mais avant cela, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vivaient en harmonie d'amour. Le Père aimait le Fils avant la fondation du monde. Le Fils aimait le Père avant la fondation du monde. Et l'Esprit Saint faisait mouvoir cet amour divin entre les trois personnes de la Trinité, depuis toujours. Et c'est comme si Dieu, aimant tellement son Fils, s'est dit en lui-même, « J'aimerais passer à un acte de création de personnes semblables à mon cher Fils que j'aime. » Alors il a conçu son projet de créer l'univers, de créer la terre et de mettre sur terre les êtres humains faits à son image. Et Jésus, le Nouveau Testament nous dit, est l'image de Dieu. Nous sommes faits à l'image de Jésus parce que le Père aimait son Fils. Et nous sommes faits par amour. Derrière notre existence, il n'y a pas le hasard et la nécessité, comme Jacques Monod dirait. Tellement de jeunes sont perplexes concernant leur identité aujourd'hui. Ils ne savent pas d'où ils viennent, pourquoi ils sont là, pourquoi, quelle est la vie, quel est le sens de la vie. Pourquoi? Parce qu'on leur a dit qu'ils sont là comme le hasard et l'évolution. La Bible dit autrement. La Bible dit que nous sommes là par un acte créateur d'un Dieu d'amour et d'intelligence suprême. Et quand il nous a créés dans son amour, il nous a fait pour l'aimer. La plénitude de la vie humaine consiste à vivre une relation d'amour avec Dieu. Seul cela peut combler la soif profonde d'amour dans notre cœur. Nous sommes faits par amour pour aimer le Père. La Bible dit nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et merveilleux est ce jour-là quand Dieu touche notre cœur, là où nous errions sur les chemins d'égarement pour nous faire arrêter et pour nous plier le genou devant le Seigneur, pour recevoir son amour dans nos cœurs et son salut. Et ça a changé non seulement notre vie, mais notre éternité. Nous l'aimons donc parce qu'il nous a aimés le premier. C'est pour cela que le premier commandement, c'est « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton esprit. » Ça, c'est la chose la plus importante dans l'existence, aimer Dieu, parce que Dieu est amour et il nous a fait pour cela. Et Dieu est tellement sage et bon qu'il nous ordonne de faire des choses qui sont pour notre bien. Il nous ordonne « Aime Dieu de tout ton cœur » parce que quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, nous vivons la vie la plus épanouie possible. Et nous qui avons marché avec le Seigneur pendant tellement d'années, nous savons qu'en dehors du Seigneur, il n'y a pas de bonheur semblable à celui que de marcher dans sa connaissance et son amour. Vraiment, Dieu nous a bénis dans sa grâce, au-delà de tout ce que nous aurons pu jamais imaginer. Il nous aime et il nous a créés pour cet amour. Deuxièmement, nous sommes rachetés par amour. Nous connaissons tous les bases de l'Évangile, il n'y a pas besoin, mais quand même, nous sommes pécheurs, pécheurs par nature. Nous commettons des péchés, le salaire du péché c'est la mort, nous sommes sous le jugement de Dieu, nous allons vers un jugement éternel où nous allons être perdants pour l'éternité, perdus. Et alors Jésus est venu, cherchant et sauvant ceux qui étaient perdus. Et il a donné sa vie sur la croix, prenant sur lui la mort et la peine de nos fautes pour nous en libérer. Tout ça, nous connaissons, j'espère. C'est la base de l'Évangile. Alors, nous pouvons dire avec l'apôtre Paul, « Le Fils de Dieu m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Jésus vous a racheté par amour pour vous. Il vous connaissait également avant la fondation du monde. Imaginez cela. 13, 14 milliards d'années. Il vous a choisi avant la fondation du monde pour le connaître, pour l'aimer. Et quelque part dans votre vécu, vous le rencontrez et votre vie est bouleversée. Vous êtes racheté. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et puis, il est allé donner sa vie pour nous qui étions ses ennemis. Quel amour est ça? Il n'y a pas de plus grand amour que ça. Et nous sommes les récipients de cet amour. Dieu nous aime. Jésus nous aime. Il nous sauve de la colère à venir. Et notre amour pour Jésus commence avec la gratitude. Il m'a sauvé. J'aime bien ce chant. Il m'a sauvé. Et dans son grand amour, il m'a racheté. Magnifique. Notre amour pour Jésus commence en lui disant merci. Merci de m'avoir racheté. Ça n'en reste pas là. Nous devons passer plus loin que ça pour apprécier le Seigneur et pour l'adorer. Je me rappelle, quand nous étions encore à Cour Saint-Étienne, dans cette maison, nous habitions au-dessus et nous faisions le culte en bas, nous avions une équipe de jeunes, je crois que c'était d'OM, et il y avait une Américaine dans l'équipe qui partageait ceci. Ils disaient, imaginez qu'il y a une maison, un incendie dans une maison, et il y a une jeune fille à l'étage qui regarde par la fenêtre, qui ne peut pas descendre à cause de l'incendie. Et les pompiers arrivent, un pompier met l'échelle pour aller la sauver. Il la met sur son épaule, il redescend. Et après, il commence à faire connaissance et il commence à finalement se courtiser. Et alors, il se marie. Alors, elle disait, cette Américaine, une fois qu'ils sont mariés, est-ce que vous pensez qu'elle va toujours se dire « Ah, je t'aime parce que tu m'as sauvé de cet incendie. » Non, non. Elle va dire « Je t'aime parce que tu es fidèle, je t'aime parce que tu m'aimes, je t'aime parce que tu es là pour moi, etc. » Elle apprend en plus la reconnaissance, l'appréciation de sa personne. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Nous l'aimons parce qu'il nous a rachetés. Merci Seigneur, c'est magnifique. Mais nous apprenons à l'apprécier aussi et à le remercier pour qui il est, pour le louer. Mais encore, il y en était plus loin dans l'amour pour Jésus. En Jean 14, Jésus dit, « À ceci tous... » Non, pardon, je confonds. Je vais lire le texte. Jean 14, voici, verset 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Non pas celui qui lance des belles paroles, quoique c'est beau, quand elles sont sincères, quand ces paroles sont sincères. Mais celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui l'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai. Voilà la relation d'amour entre le Père et le Fils et nous, ramassés dans cette relation d'amour. Un peu plus loin, il répète, Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc l'amour pour lequel nous sommes faits, c'est non seulement aimer Dieu, mais aimer Jésus et faire ce qu'il dit. Obéir à sa parole, cette obéissance également, c'est la voie de l'épanouissement la plus merveilleuse pour nous. Gardez donc ces commandements. Troisièmement, nous sommes régénérés, nés de nouveau par amour pour aimer grâce au Saint-Esprit qui opère cette nouvelle naissance et qui vient descendre, vivre, habiter dans notre cœur. Paul explique ça en Tite, chapitre 3, en disant ceci, « Il nous a sauvés en vertu de sa propre miséricorde par le bain de la régénération, la nouvelle naissance. » Et le renouveau du Saint-Esprit, il a répandu le Saint-Esprit sur nous avec abondance par Jésus-Christ, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions héritiers de l'espérance de la vie éternelle. Bref, il veut dire ceci, Dieu nous a régénérés par miséricorde et par grâce et par amour. Il nous a lavés par le bain de la régénération. Il nous a donné le renouvellement du Saint-Esprit qui demeure en nous et qui nous renouvelle. Et quel est le fruit de l'Esprit quand il descend dans notre cœur? Galates 5, 22, vous connaissez. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous est donné. Et quand nous sommes exhortés à poursuivre l'amour et à rechercher l'amour, à grandir dans l'amour, nous devons compter sur ce Saint-Esprit. Dieu est amour, son Esprit est amour, il donne son amour dans nos cœurs par son Esprit Saint pour nous pousser à vivre dans l'amour. Ainsi, notre vie est progressivement transformée en grandissant dans l'amour. C'est intéressant qu'en 1 Corinthiens 13, ici, Paul est occupé à parler en 1 Corinthiens 13 sur l'amour, mais entre chapitre 12 sur les dons du Saint-Esprit et chapitre 14 sur les dons du Saint-Esprit. Et il dit au début du chapitre 13, « Quand j'aurai le don de parler en langue, comme n'importe quel autre, comme les anges même, si j'ai le don de la foi pour transporter les montagnes, si j'ai le don de la connaissance pour instruire dans tous les mystères, si j'ai tant de dons spirituels au degré le plus étoffé possible, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien et ça ne sert à rien pour les autres. Certains sont fans. Leur dada, c'est les dons spirituels. Ils devront apprendre par cœur ces trois versets. Comparé aux dons spirituels, les vertus, les grâces, les fruits de l'esprit sont beaucoup plus importants dans la pensée de Paul ici. Si nous n'avons pas l'amour, quels que soient les dons que nous ayons, ça ne sert à rien. Donc, il nous faut l'Esprit Saint. Oui, il donne des dons. Oui, nous avons des capacités. Oui, nous pouvons servir. Mais dans l'esprit de l'amour que le Saint-Esprit verse dans nos cœurs. Et notre service, si ce n'est pas fait dans un esprit d'amour, ça grince. Ça n'édifie pas. Alors, Paul dit en 1 Thessaloniciens 4, en remerciant les Thessaloniciens et en les louant d'avoir appris l'amour fraternel, il dit « progressez encore ». Progresser encore. Toujours besoin de faire mieux. Toujours des occasions nouvelles de grandir dans l'amour, même quand les choses sont difficiles. Pratiquement donc, si nous sommes faits par amour, si nous sommes rachetés par amour, si nous sommes régénérés par amour, passons à l'application de cela. Comment faire cela ? Si Paul dit aussi « recherchez l'amour » ou « poursuivez l'amour », si ça doit être désormais vraiment le motif de notre vie, grandir dans l'amour, pratiquement, qu'est-ce que ça représente ? Trois applications. En famille, en église et dans le monde, en relation avec les autres. Premièrement, en famille. Laissez les versets, certainement, Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. Les maris, je parle à moi-même, nous avons à progresser dans l'amour pour nos épouses, toujours. Depuis que nous sommes à la retraite, Dorothy et moi, nous trouvons qu'on est plus à l'aise dans l'expression de l'amour mutuel dans le foyer. C'était peut-être le stress du ministère, courir après cette responsabilité et cette autre. Libre de ça, c'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas si les autres ont expérimenté ça, mais c'est notre témoignage en tout cas. Soit ça, soit peut-être Dorothy a grandi en sanctification tout d'un coup. Elle est plus facile à aimer. Mais voilà. Mais un verset qui est moins connu est Tite, chapitre 2, verset 4, où les femmes plus âgées doivent apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. Marie, aimez vos femmes. La Bible dit, femmes, aimez vos maris et vos enfants. Peut-être, on dit, les mamans aiment tous leurs enfants. Moi, ça dépend des enfants et de leur degré d'humour au moment. Évidemment, on connaît tous que cet amour des femmes pour leur mari se traduit par la soumission, mais aussi l'amour du mari pour son épouse se traduit par la considération. Et aussi, parfois, par la soumission à l'épouse. Ça peut arriver. Si vous lisez soigneusement Éphésiens chapitre 5, versets 17 à 20, cette soumission est mutuelle dans le corps de Christ. Soumettez-vous les uns aux autres. C'est biblique. Et il y a des moments où le mari se soumettra à son épouse. Dans le cadre du mariage, 1 Corinthiens 13 donne quelques tuyaux intéressants. Au verset 6, par exemple, il est dit à la fin, « Il ne se réjouit pas de l'injustice. » Donc, le dialogue doit être vrai dans le mariage, dans le couple. Que l'un parle avec vérité à l'autre. Le pardon continuel également, est très important. Le pardon, c'est un geste d'amour. Il pardonne tout, verset 7. Oui, tout. Ne cherche pas son intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. On est tous facilement coupables de ça. L'amour supporte tout. Ah, oui, le conjoint est parfois difficile à supporter, mais l'amour supporte tout. Et l'amour soutient l'autre aussi dans le couple. J'ai parlé tout à l'heure d'être reconnaissant envers Jésus, mais Mon frère m'a une fois dit, il n'y a pas trop longtemps, que quand il est dit dans le Nouveau Testament, soyez reconnaissant, moi j'ai toujours pensé reconnaissant envers Dieu. Mais mon frère m'a fait comprendre que c'est reconnaissant aussi envers l'autre. Et nous venons d'entendre, dont il vient d'entendre de la part de certaines femmes, que les maris, en général, ne remercient jamais leurs épouses. Marie, retenez au moins une chose de ce message ce matin. Commencez. Soyez reconnaissant envers votre épouse pour les choses qu'elle fait pour vous tous les jours. Merci, pardon, et j'ai eu tort sont les trois phrases les plus difficiles à prononcer, pour un homme surtout. Merci, pardon, j'ai eu tort. Mais dans le couple, l'amour s'exprime par ces mots. L'amour, donc, dans le couple, doit se construire. Les paroles d'appréciation. L'amour est serviable, en plus, dans le contexte du mariage. Vous savez, l'amour divin, l'amour agapé est nécessaire, en plus de l'amour humain. C'est ça l'atout que nous, chrétiens, nous possédons. Nous avons l'amour divin, aussi bien que l'amour purement humain, pour nous renforcer. Nous devons compter, prier que le Saint-Esprit nous donne l'amour davantage pour nos conjoints et aussi pour nos enfants. Quand les enfants, il est dit ici, l'amour est patient. Il faut de la patience avec les enfants. L'amour ne s'irrite pas. Ah, les enfants, ils sont bien capables de nous irriter, n'est-ce pas? Donc, en famille, l'amour doit se pratiquer. Deuxièmement, en Église. Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Quel est le commandement nouveau? Pourquoi est-ce nouveau? C'est l'amour. Ce qui est nouveau dans ce commandement, c'est « Aimez-vous les uns les autres. » C'est dans la famille de croyants. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. L'amour est capital au sein de l'Église pour maintenir l'harmonie et l'édification dans l'Église. Et chacun doit y contribuer. L'amour ne doit pas être envieux. Tel frère, telle sœur qui a des dons que nous n'avons pas, hein, on a envie de les envier. Non, l'amour ne se vante pas. Moi, je fais ça mieux que lui. Non, ça non plus, ne se vante pas. Égalité de tous. Chacun important dans le corps de Christ, dans l'Église locale. Chacun l'objet de l'amour de tous. Amour surtout pour le plus petit de mes frères. La personne que nous aurions tendance à négliger ou à laisser de côté. Aux États-Unis, une fois, à l'époque des hippies, un hippie converti est entré pour la première fois dans une église, pensant que c'était la chose à faire maintenant qu'il était chrétien. L'église était bondée de personnes bien nanties, bien vêtues, et lui, avec ses longs cheveux et son vêtement d'hippie, ne se sentait pas d'emblée à l'aise. Et il entrait dans l'aile, cherchant à droite et à gauche un emplacement pour se mettre, et il a dû aller jusque tout dans le fond, et il ne trouvait pas de place, tellement l'église était bondée. Finalement, il s'est assis à terre, par terre, devant. Alors, un monsieur plus âgé est sorti de son rang, l'a suivi dans cette allée, en descendant, et une fois arrivé dans le fond, ce monsieur plus âgé s'est assis à côté de lui, par terre. C'est ça un peu l'amour pratique pour les moins considérés. Jacques a un mot à dire là-dessus aussi, dans le deuxième chapitre de sa lettre. L'amour est serviable, aide mutuelle. Ça marche dans l'Église ici? L'amour se soucie des autres. L'amour agit pour le bien des autres. L'amour ne médite pas le mal. J'aime bien cette phrase dans ce chapitre. Ne médite pas le mal. Le mot dans le grec, c'est compter, calculer. C'est un mot de la comptabilité. Autrement dit, le mal qu'une personne nous fait, on n'y pense pas, on ne fait pas une liste. Ah, elle m'a encore fait ça. Encore une fois. Et encore. Chaque dimanche, c'est la même chose. Non. L'amour ne calcule pas le mal qu'on nous fait. C'est effacé, c'est pardonné, c'est disparu. Tout le temps, ne médite pas le mal. Ne réfléchis pas, ne comptabilise la méchanceté. Non. Le pardon mutuel, c'est la vie continuelle de l'Église locale. Et cette phrase, ne médite pas le mal, peut être aussi interprétée autrement. De façon négative, c'est-à-dire, ne médite pas le mal de l'autre. Ne pense pas toujours, ah, elle m'a fait ceci. Et n'impute pas des motivations mauvaises à tel frère ou à telle sœur pour ce que cette personne aurait fait. Nous attribuons facilement une motivation mauvaise à quelqu'un suivant le geste comme nous le ressentons. L'amour commence dans la pensée. Pour maîtriser nos réactions, ah, elle m'a fait ça parce que, et en se disant, non, peut-être c'est parce que c'était un mauvais jour pour elle, peut-être elle était malade, peut-être qu'elle a été bousculée dans la vie, et puis elle a simplement dit ça parce que. Donc on excuse l'autre, l'amour excuse tout, trouve les moyens d'excuser l'agissement mauvais de l'autre, plutôt que de le retenir et de le condamner. L'amour croit tout. Drôle d'expression, ça. L'amour croit tout. Entre autres choses, je pense que ça veut dire croit toujours le mieux de l'autre. Ne pas interpréter mal ce que l'autre fait, mais croire toujours le mieux. Oui, il sombre peut-être dans une vallée difficile, mais on croit qu'il en sortira. L'amour espère tout. L'amour espère le mieux de l'autre. Tout ça, je vous laisse encore réfléchir comment mettre ça en pratique. Mais toutes les fois dans le Nouveau Testament où vous lisez les uns les autres, ou réciproquement, c'est ça l'amour, les manifestations de l'amour mutuel. En Hébreux 10, 24, il est dit, veillez les uns sur les autres pour vous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est tout le message que je porte aujourd'hui. Finalement, envers le prochain, la personne dans le monde, le voisin, oui. Nous sommes appelés à être l'image de Dieu dans le monde, là où nous allons. Nous portons Dieu et son amour en nous pour aimer comme Dieu aime. Il n'est pas toujours facile d'aimer ceux qui sont difficiles, et la Bible dit, dans Romains 12, verset 18, « Pour autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. » On ne peut pas changer l'attitude du méchant envers nous, mais au moins, dans notre attitude envers lui, soyons bons. Et positif et plein de l'amour du Seigneur. Vous savez, en Matthieu 5, à la fin du chapitre 5 de Matthieu, Jésus dit, il faut aimer nos ennemis. Il faut bénir ceux qui vous maudissent. Je ne sais pas si vous avez des ennemis. Moi, j'ai quasiment jamais eu d'ennemis. Mais j'ai récemment eu une personne en Écosse, dans l'église, qui m'a une fois dit des choses, explosées en face. Une bonne expérience. J'ai toujours pensé théoriquement, si j'ai jamais un ennemi, ah, c'est waouh, une occasion de lui faire du bien. Et vraiment verser des charbons ardents sur sa tête. Vraiment, mais le faire gêner parce que je reste toujours de bonne attitude envers elle. Et voilà, j'ai eu l'occasion. C'était pas facile, mais le Seigneur m'a donné de grâce. C'était quand même beau pour moi de témoigner ça. Et si vous avez un ennemi, priez pour lui d'abord. Jésus le dit, priez pour lui. Puis imaginez, qu'est-ce que vous pouvez faire comme geste pour le surprendre par la bonté qui est dans votre cœur, grâce au Seigneur. Ce sera pour la gloire du Seigneur. Je termine avec une illustration dans les guerres dans les Maumo au Kenya il y a 50 ans ou plus. Il y avait un chrétien qui allait être fusillé par les Maumo. Et alors, au moment où ils allaient le tuer, il a dit, « Attendez un instant, ma veste est beaucoup mieux que la vôtre. » Il a enlevé sa veste. « Tenez, hein, maintenant vous pouvez me tuer. » Il a survécu pour raconter cette histoire. Vous avez été appelé au privilège immense d'être les bien-aimés de Dieu. Dieu vous a aimé avant la fondation du monde. Il vous aime d'un amour qui ne peut pas rendre plus grand. Il vous aimera et rien ne pourra vous séparer de son amour. Dans le ciel, vous baignerez dans cet amour pour toujours. Bien, recherchez l'amour maintenant. Poursuivez l'amour maintenant. Approfondissez comment montrer l'amour maintenant, en famille, dans l'Église, dans le monde. Et comptez sur le Saint-Esprit de verser en vous l'amour de Dieu. Et ce n'est pas dans les sentiments. Regardez ce passage à nouveau. C'est des verbes. Versets 4 à 7, c'est des verbes. Dans le temps présent, l'amour fait ceci. L'amour est actif. L'amour se montre. Les sentiments peuvent être là ou pas être là. C'est pas l'important. C'est le geste, c'est l'action. C'est vouloir le bien de l'autre. C'est ça, aimer l'autre. Vouloir son réel bien et agir pour son bien, même aux dépens de votre propre volonté. Que le Seigneur vous aide à rechercher l'amour, à poursuivre l'amour jusqu'à ce que nous le verrons face à face. Prions ensemble. Seigneur, nous devons tout d'abord confesser notre manque d'amour. C'est regrettable, Seigneur, que nous sommes si pauvres. Même après tant d'années de vie chrétienne, Seigneur, tu vois les fois où nous sommes tombés à court et nous t'avons trahi en quelque sorte par la mauvaise façon de vivre en rapport avec nos semblables. Nous te prions aujourd'hui, Seigneur, par la puissance de ton Esprit Saint, de nous remplir de ton amour divin et nous aider à pratiquement chercher à mettre cet amour en pratique jour après jour à la maison et dans le foyer et dans l'église et là où nous allons. Permets-nous, Seigneur, de grandir dans l'amour tous pour la plus grande gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen.